Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Alors ce cours, comme vous l'avez peut-être vu ou entendu si vous avez assisté à la leçon inaugurale il y a 15 jours, est un cours qui a un objet, qui est un objet apparemment très précis, très particulier, de suivre le destin d'une pièce perdue, une pièce de théâtre présentée deux fois en 1613 à la cour d'Angleterre, et dont on ne sait qu'en 1613, d'après les documents qui indiquent cette double représentation, que le titre Cardenio. Et donc de là, une enquête qui vise à repérer à travers les temps ce qu'était cette pièce, dont ne subsiste ni manuscrit ni édition imprimée, avec une indication précieuse, comme je le rappelais, en 1653, lorsqu'un libraire de Londres entend publier cette pièce, et d'au moins son dessin, et demande une writing copy, la propriété sur le texte, à la compagnie des libraires et imprimeurs de Londres, et révèle dans ce registre le nom des deux auteurs de cette pièce représentée 40 ans auparavant, Master Fletcher and Master Shakespeare. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1653, le milieu du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, cette pièce perdue, attribuée très rapidement à Shakespeare en gommant la collaboration avec Fletcher, a hanté les imaginations, les passions, les études shakespeariennes, et sinon cette année, au moins peut-être c'est pour une partie du cours de l'année prochaine, j'essaierai de suivre jusqu'au présent le destin de cette pièce perdue. Alors, on pourrait dire qu'il y a là un objet très précis, très particulier, très spécifique, mais je crois qu'il permet de poser quelques questions fondamentales qui sont celles qui animent cette nouvelle chaire au Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. La première de ces questions, c'est la question que j'ai mise au titre global du cours, celle de la mobilité. Mobilité des textes entre les langues, entre les genres et entre les lieux. Et cet exemple est particulièrement puissant pour poser cette interrogation, puisqu'évidemment on est là devant une première mobilité qui sera celle de la langue. Si cette pièce représentée en 1613 a pour titre Cardenio, c'est parce qu'elle utilisait un personnage du Quichotte, de Cervantes, et que donc se pose immédiatement la question de la réception, l'appropriation, les traductions de Don Quichotte dans un certain nombre de langues européennes, et donc du coup ce problème de la migration d'un texte d'une langue à l'autre, il est toujours le même et pourtant il est à chaque fois différent. Cette migration est aussi une migration de genre, puisqu'il s'agissait là de la transformation d'une histoire, c'est le mot que toujours emploie Cervantes pour désigner le Don Quichotte, et évidemment jamais le roman qui serait anachronique, une novelle, en une œuvre dramatique faite pour la représentation théâtrale, et de là le problème d'une seconde mobilité, comment est-ce que l'on peut faire du théâtre à partir d'une histoire, ce qui suppose toute une série de transformations, adaptations, modifications. Et enfin, mobilité donc d'une langue à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un lieu à l'autre, puisque si la Historia de Cervantes a été publiée à Madrid, la pièce a été représentée à Londres, et comme nous le verrons, ce n'est pas le seul lieu dans lequel le texte de Cervantes a pu être mobilisé au service d'une écriture dramatique. Et là, avec des pièces qui existent, que l'on peut donc étudier, on peut voir comment, en Espagne même, une comédia de Guillén de Castro, un auteur très fameux puisqu'il est l'auteur des Mocedades del Cid, c'est-à-dire de la pièce qu'a utilisée Corneille pour son propre Cid, est la première adaptation de Don Quichotte sur la scène, une comédia écrite sans doute très tôt après la publication en 1605 de Don Quichotte et qui a porté Don Quixote a Ancha, Et d'autre part, le monde parisien n'est pas absent, puisque dans les années 1620, là aussi, au moins deux auteurs se saisissent de Don Quichotte pour transformer des parties de son intrigue en des pièces de théâtre. Donc c'est le premier thème qui est très présent dans cette chaire, la mobilité des textes, et que l'on peut, grâce à cet exemple, traiter pour les dimensions à la fois linguistiques et génériques. Le deuxième thème est un thème qui est aussi très présent dans les intentions de cette chaire et qui est, je le disais dans la leçon inaugurale, la volonté de briser avec une tentation qui nous est forte, c'est-à-dire de projeter anachroniquement sur les XVIe et XVIIe siècles des définitions, des concepts, des catégories qui se sont attachées à la littérature, entre guillemets, à partir du XVIIIe siècle et plus encore au XIXe et XXe siècle. En particulier, toutes ces notions qui se lient avec la figure souveraine de l'auteur singulier, génie original, créateur de l'œuvre. Et c'est à partir de cette représentation des auteurs dans une figure pré-romantique ou romantique du génie singulier, c'est à partir de cette représentation des œuvres comme une création originale qu'ont pu se fonder à la fois une esthétique et le droit. Le droit de la propriété littéraire, du copyright, de la propriété intellectuelle, qui suppose d'une part l'originalité de l'œuvre et d'autre part que cette œuvre puisse être assignée à un nom propre, un seul, qui est celui de son propriétaire. Les pratiques d'écriture, en particulier pour le théâtre, mais pas seulement le théâtre, au XVIe et XVIIe siècle, ne répondent pas à ce modèle. L'esthétique de l'originalité est très fortement contrebalancée par l'idée selon laquelle les histoires, les intrigues, les personnages peuvent être partagés, et c'est le cas avec ces pièces de théâtre qui sont fondées sur les histoires ou les personnages mis par Cervantes dans son histoire. Et d'autre part, l'écriture est très souvent une écriture qui suppose la collaboration, la révision, la continuité. Et c'est le cas emblématique dans cette situation, puisque la pièce attribuée en 1653 l'est à deux auteurs, Fletcher et Shakespeare, même si dans la tradition postérieure, elle deviendra l'une de ces pièces perdues de Shakespeare qui mobilise les imaginations ou les attentions. Et donc, du coup, suivre la pièce d'un genre à l'autre, ou même dans son origine, c'est-à-dire cette écriture à deux mains, et rétablir l'importance fondamentale pour les œuvres des XVIe et XVIIe siècles, l'importance fondamentale de la collaboration, l'écriture à plusieurs mains, ou bien de la révision et de l'adaptation, c'est-à-dire l'écriture après l'œuvre, mais qui a fait profit de l'œuvre qui est déjà là. Donc ce dossier est aussi un dossier qui permet de mettre en question l'idéologie esthétique ou les catégories juridiques qui se sont cristallisées à partir de cette invention de la figure souveraine du génie créateur. Le troisième thème qui est présent dans cette histoire, c'est un thème qui lui aussi habite profondément cette nouvelle chaire, c'est l'idée fondamentale des appropriations textuelles, c'est-à-dire comment un même texte, un même avec des guillemets, a été lu, mobilisé, compris différemment dans différents contextes nationaux, culturels et sociaux. Et Don Quichotte est l'exemple paradigmatique le plus puissant que l'on puisse imaginer, puisque si l'on pense, et j'y reviendrai, au XVIIe siècle en Espagne, les appropriations de Don Quichotte sont multiples, pas seulement sur la scène avec la Comedia de Guillén de Castro, mais aussi à travers de multiples formes de sortie des personnages du livre pour se transformer en masque ou protagoniste de fêtes carnavalesques ou de fêtes aristocratiques. aussi bien dans la métropole que dans les Indes, c'est-à-dire les colonies espagnoles d'Amérique. On a donc là de multiples appropriations de Don Quichotte, les unes restant dans le monde de la littérature, mais d'autres sortant les personnages pour les incarner dans des figures qui sont soit celles des acteurs sur la scène du Corral de Comedia, soit celles de ces masques, déguisements, représentations des personnages du Quichotte à l'intérieur de fêtes. Et si on pense à l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui sera aussi l'objet de quelques-unes des réflexions, on peut voir aussi comment les appropriations et de Cervantes et de Shakespeare sont multiples, contradictoires, si l'on pense au texte shakespearien, entre d'un côté le respect pour l'œuvre, la quête à partir du XVIIIe siècle du texte shakespearien tel que son auteur l'a voulu, l'a écrit, l'a pensé, donc dans tout le travail d'édition des textes de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, il y a dans le XVIIIe siècle anglais, cette quête d'authenticité et d'exactitude. Et en même temps, comme on le verra aussi, lorsque le matériel dramatique qui est présent dans les œuvres shakespeariennes est réapproprié, il l'est d'une manière extrêmement libre et irrespectueuse. C'est-à-dire qu'on a comme une contradiction entre ce respect philologique pour l'édition et d'autre part cette appropriation libre et sauvage pour la forme dramatique. Donc l'idée même de ce cours est de croiser ce qui est une histoire très particulière, très fascinante si on la désigne dans les catégories qui sont celles dans lesquelles le plus souvent elle est abordée aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la pièce perdue de Shakespeare. Mais en même temps, au-delà de cet intérêt, il y a, je crois, la problématique plus générale de la mobilité et de la matérialité des textes, de leurs incarnations successives dans des langues ou des genres différents, de leur production collective, aussi bien que dans le moment de leur création ou dans leur moment de leur adaptation, et finalement cette question des appropriations multiples, contradictoires, des mêmes, entre guillemets, textes au fil du temps. Alors voilà un peu le projet de ce cours. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer l'histoire là où elle commence, c'est-à-dire en 1613, lorsque dans un registre de comptes qui inscrit les paiements faits par le trésorier de la Chambre du Roi, on rencontre en mai 1613, puis un peu plus tard en juillet 1613, la mention de paiement fait par le trésorier de la Chambre royale à une troupe de théâtre qui a pour titre les King's Men, qui était la troupe dans laquelle Shakespeare était à la fois, avait été, puisque à ce moment-là, il est retiré à Stratford-upon-Avon, avait été à la fois l'un des propriétaires, puisque les compagnies de théâtre anglaises étaient divisées comme en une série de parts ou shares qui étaient possédées par les principaux acteurs de la troupe. Il avait été donc un des propriétaires, un des comédiens et l'un des dramaturges qui avait écrit pour cette compagnie. Donc dans les paiements faits à celui qui est l'un des directeurs des Kingsmen en 1613, on rencontre d'abord à la date du 20 mai 1613 un paiement de 93 livres, 6 shillings et 8 pence pour la représentation de 14 pièces qui ont été données dans le Palais Royal dans les semaines ou les mois précédents et qui ont été données, j'y reviendrai, devant son Altesse Royale, la fille du roi Jacques Ier, Lady Elizabeth, et d'autre part son époux, le prince palatin le prince électeur du Palatinat. Dans la première de cette liste de paiements pour ces 14 pièces, il n'est pas question de Cardenio, mais il est intéressant de voir dans quel contexte va se situer cette apparition en 1613 de Cardenio. Les titres de pièces sont donnés sans aucune indication du nom de leur auteur. Ce qui est important, c'est qu'elles ont été représentées par la compagnie des Kingsmen. Et dans cette première liste de 14 pièces, on trouve en fait 6 pièces qui vont figurer dans le folio qui, en 1623, après la mort de Shakespeare, mort en 1616, va rassembler 36 ou 37, cela dépend des éditions, enfin cela dépend des exemplaires du folio de 1623, va rassembler les comedies, histories and tragedies de Shakespeare. De ces pièces, en 1613, 6 ont été représentées par la troupe des hommes du roi à la cour. D'une part, 3 comédies, La Tempête, Much Ado About Nothing, Beaucoup de bruit pour rien, and The Winter's Tale, Le Conte d'hiver. 2 qui vont appartenir dans le folio aux tragédies, La vie et la mort de Jules César et Othello, et 1 qui apparaîtra dans les histories, c'est-à-dire elle est désignée dans le document de 1613 comme Sir John Falstaff, et elle pourrait bien être la seconde partie de Henri IV, qui sera l'une des pièces qualifiées comme history. Le folio de 1623 va regrouper en 3 rubriques les 36 ou 37 pièces shakespeariennes. 2 rubriques étaient très classiques, c'est-à-dire celle de la poétique aristotélicienne, la première, comédie, la troisième, tragédie. Et l'une est plus fondamentalement originale, elle est d'ailleurs extrêmement passionnante à étudier, c'est la catégorie appelée histories, dans lesquelles les pièces qui sont là rangées portent sur l'histoire des rois d'Angleterre, depuis le roi Jean jusqu'à Henri VIII. Donc on a là que dans ce premier document, non pas la mention de Cardenio, mais la mention forte de Shakespeare, même si son nom n'est pas donné, mais dans ces 14 pièces, 6 vont ensuite apparaître dans le corpus canonique shakespearien tel qu'il se bâtit avec le folio de 1623. Dans le même quittance du 20 mai 1613, il y a un autre paiement de 60 livres pour 6 autres pièces, et c'est dans cette liste-là que l'on va rencontrer, je cite la liste entièrement, « A bad beginning makes a good ending », « Un bon début fait une bonne fin », « The Captain », « The Alchemist », « Cardenio », « The Hotspur », « Benedict and Betteris », « Benedict and Betteris », peut-être la pièce qui est « Much Ado About Nothing ». Mais on voit ici, dans ce second groupe de pièces, second paiement, dans cette même quittance du 20 mai 1613, l'apparition d'une pièce appelée « Cardenio ». Et un mois plus tard, le 9 juillet 1613, il y a un deuxième paiement qui est fait au même John Heming, l'un des anciens compagnons de Shakespeare dans la troupe des Kingsmen, une somme plus modeste, 6 livres, 13 shillings et 4 pence, pour la représentation d'une seule pièce devant le duc de Savoie, qui était l'hôte du souverain anglais, d'une pièce qui est appelée la Cardenia. Et voilà, c'est cette pièce, Cardenio ou Cardenia, dont ce cours ou cet essai voudrait essayer de percer le mystère. Les premiers éléments à mettre en place sont évidemment les éléments du contexte de la représentation, fin 1612, début 1613, pour ce Cardenio ou Cardenia, qui n'est attribué, évidemment, comme les autres pièces, à aucun auteur particulier. Il y a 2 contextes qui me semblent intéressants. D'abord, le premier est un contexte calendaire qui a à voir avec les cycles festifs dans l'Europe chrétienne, c'est-à-dire les temps forts des réjouissances et des divertissements, aussi bien dans les horizons de la culture folklorique, paysanne, populaire, que dans le monde des cours. Ces 2 temps forts sont le cycle des 12 jours, c'est-à-dire ces 12 jours qui séparent le jour de Noël du jour de l'Épiphanie. Et en Angleterre, comme l'on sait, ce jour-là de l'Épiphanie, ou cette nuit, est considéré comme la 12e nuit, de là le titre de la pièce de Shakespeare, Twelfth Night. Il y a là un premier ensemble de jours où il y a une grande intensité de réjouissance, de divertissement, de rituels folkloriques. Le deuxième temps, c'est évidemment la période du carnaval entre le 2 février et le 2 mars. Et les paiements de la première représentation de Cardenio en mai 1613 se référant à des pièces jouées quelques semaines ou quelques mois auparavant s'inscrivent dans ce contexte. Un contexte qui, dans les cours européennes, était marqué par une très intense activité théâtrale. Et lorsque l'on voit des documents de spectateurs qui, dans leurs journaux personnels, rappellent les moments ou les conditions de leur assistance à telle ou telle représentation, très souvent apparaissent des dates qui correspondent soit au cycle des 12 jours, soit au cycle de carnaval. Un exemple, Twelfth Night, la pièce de Shakespeare, a été vue par un étudiant d'une des écoles de droit londonienne, John Manningham, un 2 février, le 2 février de 1602. Et c'est là la rencontre entre les deux calendriers, puisque d'un côté, la pièce elle-même a comme titre une référence calendaire à ce cycle festif des 12 jours, et d'autre part, la date de sa représentation est liée avec le début du cycle carnavalesque, le 2 février. On a donc là un cadre d'ensemble qui est une période d'hiver dans laquelle d'hiver et de printemps, dans laquelle, depuis le jour de Noël jusqu'au 2 mars, il y a une très forte intensité des activités théâtrales, comme si elles étaient une forme lettrée des réjouissances folkloriques qui sont celles des cultures paysannes. Le deuxième contexte est plus spécifique, dans la mesure où, dans l'hiver de 1612-1613, il y a des circonstances exceptionnelles à la cour anglaise. Le 7 décembre de 1612 est mort le fils aîné, donc héritier, du roi Jacques Ier, Henry. Et le 14 février, 7 jours ensuite, jour de la Saint-Valentin, et une autre date importante dans ce cycle de carnaval, la fille du roi, Élisabeth, a épousé le prince du Palatinat. Et c'est pourquoi le document du 20 mai 1613 rappelle que les 14 pièces pour lesquelles un paiement est donné ont été représentées devant la Princess Highness, Lady Elizabeth, and the Prince Palatine Elector, c'est-à-dire Frédéric, à l'occasion de cette union. On a donc, durant la période des 12 jours et pendant la période de carnaval, dans cet hiver et printemps anglais de 1612-1613, une sorte de fort et violent contraste entre, d'un côté, la douleur du deuil, de la mort du prince héritier, et de l'autre côté, les réjouissances liées à l'hyménée, au mariage d'Élisabeth avec le prince palatin Frédéric. Et durant tout le temps, des banquets ou des spectacles de Noël qui sont donnés à la cour, et parmi eux, la représentation de Cardenio, on doit aussi penser que dans l'abbaye de Westminster est exposé le catafalque du prince Henri, et comme il était de coutume en Angleterre ou en France, pour les souverains ou les princes héritiers, son effigie de cire parée des insignes monarchiques. On a donc là un double contexte, l'un qui est festif et l'autre qui est lié à une conjoncture dans laquelle un deuil vient rencontrer un mariage. Alors, pourquoi dans la vingtaine de pièces qui sont mentionnées dans ces versements de 1613, s'attacher plus particulièrement à Cardenio? La réponse, je l'ai déjà donnée, c'est que si cette pièce a pour titre Cardenio ou Cardena, c'est parce qu'elle renvoie à un personnage du Quichotte, Cardenio, jeune noble andalou qui a fait retraite dans la Sierra Morena, et ce qui du coup pose la question fondamentale, immédiate, de quelle était la connaissance possible du Quichotte publié en 1605 à Madrid, dans l'Angleterre de 1613. Une médiation importante est évidemment la traduction en langue anglaise de Don Quichotte, qui est publiée en 1612 par le libraire Edward Blount, avec le titre de « The History of the Valorous and Witty Knight-Errant Don Quixote of the Mancha », l'histoire du valeureux et subtil chevalier errant Don Quichotte de la Manche. On voit donc là qu'on a une pièce représentée en 1613, ou peut-être la fin de 1612, qui suit presque immédiatement la publication de la traduction en anglais publiée par Edward Blount de l'histoire de Cervantes. Cette histoire de Cervantes qui a été publiée en 1605 à Madrid, mais qui a sans doute été imprimée, comme l'étaient tous les livres qui sont publiés au début d'année, les mois précédents, dans l'atelier d'un imprimeur de Madrid, Juan de la Cuesta, dans les derniers mois de 1604. On voit donc que cette traduction inspire presque immédiatement une pièce représentée à la cour d'Angleterre, puisqu'il ne fait pas de doute que le cardenio du titre est ce cardenio de Cervantes, ce noble andalou né à Cordoue, qui, par désespoir d'amour, fait retraite dans la Sierra Morena, où il se conduit comme un homme sauvage, les habits déchirés, le visage brûlé par le soleil et sautant de rocher en rocher. Et dans le Quichotte, Don Quichotte, le personnage, le rencontre au chapitre 23 des éditions contemporaines. En fait, il s'agissait du chapitre 9 du troisième livre dans l'édition de 1605, puisque le Quichotte de 1605 était divisé en quatre parties. Et donc ici, c'est dans le troisième livre, la troisième partie, au chapitre 9, que se fait la rencontre entre Cardenio, qui s'est exilé dans la Sierra Morena, et Don Quichotte, qui lui aussi, comme épreuve d'amour, entre dans la Sierra Morena avec Sancho. Et au chapitre suivant, au chapitre 24, Don Quichotte apprend de la bouche de Cardenio lui-même l'histoire du jeune noble. Alors ici, je dirais qu'il y a un problème un peu complexe. Quel texte faut-il citer lorsqu'on cite le Quichotte dans ce contexte-là? Puisque, évidemment, le plus simple pour nous, c'est que je cite la traduction française, et en particulier la dernière traduction, celle qui a été publiée dans la bibliothèque de la Pléiade, sous la direction de Jean Canavaggio. Mais évidemment, pour les hommes de 1613 en Angleterre, les deux textes disponibles étaient soit l'édition espagnole de 1605, ou certaines qui ont suivi, j'y reviendrai, et d'autre part, la traduction de Shelton. Donc dans la version écrite de cet essai, j'essaierai de citer les deux, c'est-à-dire la version de Shelton, puisque c'est celle qu'a pu lire le dramaturge, ou qu'ont pu lire les dramaturges de 1613, et en même temps, évidemment, la traduction française. Alors ici, dans la traduction française, la rencontre est marquée par ce début de narration de sa vie par Cardenio, lorsqu'il déclare « Mon nom est Cardenio, ma patrie une des meilleures villes d'Andalousie, ma famille noble, mes parents sont riches, mon malheur est tel qu'ils l'auront pleuré. » Et les malheurs de Cardenio sont des voyez ensuite dans son récit comme ceux d'un amour infortuné pour une jeune femme, Lucinda, et la trahison par son ami le plus cher, Fernando. Et ce récit, sur lequel je reviendrai, est mené jusqu'à son dénouement finalement heureux. Et la question est de comprendre comment cette histoire d'amour fortuné, infortuné puis fortuné, pouvait donner une matrice à une pièce représentée à la cour d'Angleterre, et peut-être avec un écho entre ce que je décrivais comme la circonstance de la représentation, c'est-à-dire ce croisement entre la joie du mariage et la douleur du décès, avec ce qui est dans l'histoire de Cardenio, cette même intrication entre des moments tragiques et d'autre part un dénouement heureux. On peut s'attarder un moment sur le contexte dans lequel s'inscrit la traduction du Quichotte en 1612, qui est la première traduction dans une langue européenne. La traduction française suivra deux années plus tard, en 1614, puis dans les années 20, une traduction allemande dont on n'a aucun exemplaire conservé, et une traduction italienne, c'est-à-dire en fait une traduction au toscan. Et poser ce contexte, c'est poser la double réalité théâtrale et éditoriale de la présence espagnole dans la librairie ou sur les scènes du théâtre anglais. L'éditeur, le libraire-éditeur, Edward Blount, est un personnage tout à fait essentiel, sans doute un des libraires-éditeurs qui a le plus contribué à construire un corpus canonique de la littérature anglaise, en même temps qu'il est sans doute celui qui a le plus contribué à ouvrir le monde de l'édition anglaise aux littératures françaises, espagnoles et italiennes, parce que une des spécialités majeures de son activité éditoriale repose sur les traductions. Avant la traduction du Quichotte, qu'il publie en 1612, comme je le disais, on rencontre dans son catalogue, dans ce qu'il a publié, toute une série de traductions, soit de l'italien, dont il pouvait être le traducteur lui-même, puisque c'est un libraire qui est un libraire lettré, qui connaît le latin, l'italien, soit de l'espagnol, soit du français. En 1603, il a fait traduire, dans ce cas-là, par John Florio, les Essais de Montaigne, et cette traduction a une importance décisive pour la littérature anglaise, y compris sur Shakespeare, et on a souvent mis en rapport La Tempête, la dernière des œuvres dramatiques de Shakespeare, avec des textes particuliers qui se rencontrent dans les essais, dont Shakespeare pouvait avoir accès dans la traduction de Florio, et en particulier l'essai sur les cannibales. Le livre est publié en 1603 comme « The Essay on Moral, Politic and Military Discourses », des discours moraux, politiques et militaires de Montaigne. De ce même Florio, préalablement, en 1598, Blount avait publié un dictionnaire italien-français intitulé « A World of Words », un monde de mots. D'autre part, en 1604, il a publié la traduction sûrement du texte le plus important pour l'histoire de la conquête de l'Amérique, c'est-à-dire le texte du père José de Acosta, sous le titre « The Natural and Moral History of the East and West Indies », l'histoire naturelle et morale des Indes orientales et occidentales. Et en 1608, il publie une traduction de « De la sagesse » de Charon, c'est-à-dire un des textes fondateurs de la libre pensée ou d'une modalité de l'athéisme. C'est donc déjà en 1612 sur l'arrière-fond, et je n'ai pas donné la totalité des textes publiés par Blount en traduction, qu'il y a cette inscription de l'histoire de Cervantes. Et après 1612, Blount poursuivra cette politique éditoriale d'ouverture aux traductions, avec un accent sur la littérature espagnole. Et en 1604, il traduit le Luis de Granada, le guide des pêcheurs. En 1622, une traduction du deuxième plus important des romans picaresques, le Guzmán de Alfarache de Matteo Alemán, sous le titre The Rogue. Et pour rester dans le registre français, en 1632, il publiera un des manuels de civilité les plus fondamentaux pour le XVIIe siècle, celui de Nicolas Faré, The Honest Man. C'est un éditeur donc de traduction, et en 1620, il publiera la traduction de la seconde partie de Don Quichotte, publiée en espagnol en 1615. C'est un éditeur, on l'a vu, de dictionnaires et de grammaire. Là, il y a le dictionnaire italien-anglais de John Florio, et plus tard, la grammaire espagnole de César Houdin, ou le dictionnaire espagnol-anglais de Richard Perceval, augmenté par John Minshew, en 1623. Il serait erroné de réduire la politique éditoriale de Blount à ses seules traductions ou à la seule publication d'instruments qui permet la connaissance des langues, grammaire et dictionnaire. Il a aussi, comme je le disais, un rôle clé pour constituer un premier répertoire de la littérature en langue anglaise. Il publiera par exemple le poème de Marlowe, Hero and Leander. Il publiera des tragédies qui sont celles de William Alexander, The Monarchic Tragedies, et il publiera aussi le premier essai de critique littéraire en langue anglaise, ou un des plus importants, en 1612, The Defense of Rhyme de Samuel Daniel. Et sa carrière tient une forme de culmination en 1623, lorsqu'il est l'un des quatre libraires londoniens qui mettent ensemble leurs ressources pour publier le folio des 36 ou 37 pièces de Shakespeare. Il est d'ailleurs le seul, avec Isaac Jaggard, qui est l'imprimeur, dont le nom est mentionné sur la page de titre du folio, puisque la dernière ligne de cette page de titre a pour mention « Printed by Isaac Jaggard and Edward Blount ». Donc on a là une figure tout à fait fondamentale dans le monde de l'édition et de la librairie en Angleterre au début du XVIIe siècle, et ce n'est pas par hasard que la traduction du Quichotte fait partie de son catalogue. Entre parenthèses, je rappelle que dans ce monde éditorial-là, la distinction est tout à fait claire entre l'éditeur, au sens de celui qui investit un capital pour faire publier une œuvre, c'est-à-dire la faire imprimer et ensuite la mettre sur le marché, et d'autre part les imprimeurs, qui sont ceux qui font le processus de fabrication du livre lui-même. Et les deux tâches peuvent être dissociées, ou parfois certains libraires éditeurs peuvent être aussi imprimeurs. Dans le cas de Blount, il n'est pas imprimeur, il est un libraire éditeur qui fait imprimer par des imprimeurs de Londres, en les rémunérant pour cette tâche, les ouvrages dont il est l'éditeur, c'est-à-dire en fait à la fois l'initiateur et le libraire. Voilà un premier contexte dans lequel nous pouvons situer cette traduction de 1612, qui est évidemment de grande importance pour comprendre pourquoi l'année suivante, une pièce représentée à la cour s'appuiera sur l'histoire désormais, à partir de 1612, plus facilement accessible aux lecteurs qui ne lisaient pas l'espagnol, de Cervantes. Le second contexte, et la très forte présence espagnole sur les scènes anglaises avant 1613. Et ici, je crois qu'on peut voir les différentes modalités ou les différentes formes de cette présence de la référence ou des personnages ou des histoires espagnoles sur les scènes londoniennes. La première modalité est la localisation d'un certain nombre d'actions dramatiques en Espagne. Et ici, il peut suffire peut-être de mentionner la première et la plus fameuse de ces pièces espagnoles, c'est-à-dire celle qui porte en titre « The Spanish Tragedy », la tragédie espagnole de Thomas Kyd. C'est une pièce qui a été écrite dans les années 80, entre 1582 et 1591, elle est bien documentée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une dispute entre deux libraires, éditeurs, membres de la communauté londonienne des libraires et imprimeurs, qui avait pour titre The Stationer's Company. D'un côté, entre un Abel Jeffers, qui détenait la propriété, le writing copy, sur cette pièce et qui avait publié une première édition en 1592, et d'autre part, un de ses confrères et du coup concurrent, Edward White, qui avait imprimé contre, sans respecter le writing copy de Jeffers, cette même pièce la même année, sous le titre de The Spanish Tragedy, contenant la fin lamentable de Don Horacio et Belle Imperia avec la déplorable mort du vieux Hieronymus. Et il indiquait, Edward White, dans son édition, qui était une édition pirate, au sens qu'elle ne respectait pas le writing copy de Abel Jeffers, que le texte qu'il proposait au lecteur était nouvellement corrigé et amendé des erreurs grossières laissées dans la première édition, c'est-à-dire cet argument publicitaire pour justifier finalement ce qui était une violation de la propriété du premier libraire éditeur. Et c'est une pièce qui a connu un très grand succès, qu'elle a été rééditée plusieurs fois avant 1612, en 1594, 99, 1602, avec des nouvelles additions, 1603 et 1610. Donc une permanence de la présence imprimée de The Spanish Tragedy jusqu'aux années sur lesquelles je m'arrête, c'est-à-dire 1612, 1613. L'histoire est complexe dans la mesure où, en 1605, le même éditeur qui a publié une réédition avec de nouvelles additions, Thomas Pavier, a publié une autre pièce qui se présente sur la page de titre comme la première partie de Hieronimo, avec les guerres de Portugal et la vie et mort de Don Andrea. Alors cette première partie, publiée après ce qui est désigné comme implicitement la seconde partie, pourrait être soit une pièce que Kyd avait écrite avant The Spanish Tragedy et qui n'avait jamais été imprimée et qui pourrait l'avoir été à partir d'une reconstruction mémoriale. On peut aussi penser que cette pièce a été composée après le Spanish Tragedy afin d'exploiter le succès de The Spanish Tragedy. Peu importe finalement cet ordre, ce qui est important de voir, c'est que les deux pièces sont très fréquemment représentées et assez souvent liées l'une à l'autre, parce que l'une est représentée un jour et la seconde est représentée le lendemain. C'est ce que montre avec beaucoup de précision le journal d'un entrepreneur de théâtre qui s'appelle Philip Henslow, qui est un document magnifique pour les années 1590-1610. Il a noté jour après jour les sommes qu'il a versées à des dramaturges ou à des compagnies pour des représentations dans le théâtre dont il était le propriétaire. Et on voit là plusieurs réalités. L'une, très précise, celle que je mentionnais, c'est-à-dire comment ces deux pièces, The Spanish Tragedy and The First Part of Hieronymo, sont représentées très fréquemment et très souvent associées pour faire comme un diptyque en deux jours de représentation. Au-delà de cela, on voit dans ce document ce que je disais pour commencer, c'est-à-dire le fait que la très grande majorité des pièces, pour ces 20 ans, peut-être les deux tiers, ont été payés par Henslow à au moins deux, sinon trois, quatre ou cinq auteurs, soit qui sont des auteurs écrivant en collaboration la pièce, soit que ces auteurs soient des auteurs qui révisent, prolongent, continuent une pièce déjà là. Les deux mécanismes de l'écriture en collaboration que j'évoquais. Alors, The Spanish Tragedy, je ne vais pas entrer dans l'analyse de The Spanish Tragedy, peut-être dans un des séminaires on pourrait traiter un des moments clés qui est le dernier acte de The Spanish Tragedy, parce que c'est peut-être un des exemples les plus puissants du théâtre dans le théâtre. Une représentation est donnée à l'intérieur de la pièce et donc c'est représenté devant les spectateurs authentiques de chair et d'os du théâtre. Ce qui est important à noter ici, c'est le fait que pour la première fois, mais d'une façon très forte, se trouve lié un thème ancien du théâtre, depuis Sénèque, le thème de la vengeance. peut penser à une pièce comme Tieste, qui sera d'ailleurs aussi une inspiration possible pour Titus Andronicus de Shakespeare. Donc le thème de la vengeance, mais un thème de la vengeance qui est localisé dans le monde espagnol, même si dans le cas de The Spanish Tragedy, la liberté est assez forte et prise par rapport aux réalités historiques, puisque, comme il est, on le voit, le roi de Portugal apparaît dans les deux pièces, Spanish Tragedy and the First Part of Hieronymo, comme tributaire du roi d'Espagne, alors qu'évidemment la réalité historique à partir des années 1580 est une réalité tout autre, puisque que le Portugal a été soumis à la Castille, est un des royaumes du roi de Castille, Aragon et Portugal. Donc une liberté avec la réalité historique, mais une donnée fondamentale, c'est-à-dire d'inscrire ce thème de la vengeance féroce, cruelle, à l'intérieur d'une référence espagnole. Un second thème espagnol sur les scènes anglaises, qui peut nous permettre de comprendre pourquoi Cardenio a pu séduire des dramaturges et transformer des épisodes du Quichotte en une pièce de théâtre, c'est le thème de l'espagnol, le stéréotype de l'espagnol à la fois maniéré et poltron. Ici, on a une sorte d'archétype de ce stéréotype dans une des comédies de Shakespeare, Peine d'amour perdue, Love's Labour Lost, avec le personnage de Don Adriano de Armado. Cette pièce est importante, intéressante, parce qu'elle est publiée pour la première fois en 1598, et c'est la première édition dans le format classique d'édition des pièces de théâtre en Angleterre, mais aussi en Espagne, c'est-à-dire le format in quarto, qui, sur la page de titre, mentionne le nom du dramaturge, c'est-à-dire William Shakespeare. Les pièces shakespeariennes publiées antérieurement dans ce format quarto ne mentionnent pas le nom de l'auteur, comme je le disais pour le document financier, l'auteur importe peu. Parfois, elle mentionne le nom de la troupe ou le lieu des représentations. Mais en 1598, avec une sorte de gloire naissante de Shakespeare, commence cette utilisation par la librairie du nom propre avec, pour la première fois, sur la page de titre, William Shakespeare. Et d'autre part, c'est une pièce intéressante dans la mesure où, en 1588, comme tout le monde le sait, l'Espagne tente une opération militaire contre l'Angleterre, organisant cette armada qui devait être invincible et qui finalement a été vaincue. Et évidemment, le nom de Don Adriano de Armado était une référence ironique, plaisante, pour les spectateurs anglais à ce désastre espagnol de l'invincible mais vaincu Armada. Ce gentilhomme espagnol qui apparaît dans Love's Labour Lost apparaît comme un personnage qui est un personnage de fantaisie, de folie, de dérèglement. Il est présenté ainsi par le roi de Navarre, la pièce de Love's Labour Lost se situant dans un imaginaire royaume de Navarre où le roi ou duc de Navarre et ses gentilshommes reçoivent des demoiselles venues du royaume de France. Et à un moment, dans la première scène du premier acte, le roi de Navarre présente, je donne la traduction, « Vous savez, notre cour fréquentée par un certain Espagnol, distingué voyageur, universel expert de la mode nouvelle, qui tient frappe d'écus verbaux dans sa cervelle, et il est présenté comme the child of fancy, le fils de la fantaisie. » Et cette fantaisie se traduit fondamentalement par le goût de l'espagnol, Don Adriano de Armado, pour les nouveautés du langage. Un des jeunes barons de la cour de Navarre le décrit ainsi. Armado est vraiment un illustre personnage, champion des mots nouveaux, baron du bel usage, a man of fire new words. Et au fil des scènes, ce portrait est complété comme celui d'un gentilhomme joueur, amoureux, poète, Et lui-même, à la deuxième scène du premier acte, s'exclame ainsi « Que quelque dieu improvisateur de vers vienne à mon secours, car je vais tourner au sonnet, imagine mon esprit, écris ma plume, car il me faut composer des in-folios entiers. For I am sure I shall turn sonnet, devise wit, write pen, for I am for all volumes in folio. » Donc on voit le trèfle premier de cette représentation de l'espagnol, c'est-à-dire la démesure verbale et poétique des folios de sonnets. Mais ceci est indissociable d'un autre élément qui, lui, se réfère directement avec l'armada vaincue de 1588, c'est-à-dire la vantardise guerrière de Armado. Et dans les scènes de cette qui mettent en valeur cette dimension de Armado comme, on dirait en espagnol, bravucon, le bravache, le matamor, on voit un des traits beaucoup plus généralement répandu de caractère stéréotypé de l'espagnol. À chaque fois, cette bravoure est démentie par des conduites de couardise, et on a là le mélange entre une sorte d'extravagance poétique et linguistique que très intéressant à suivre dans la pièce, parce que Shakespeare n'utilise pas d'hispanisme pour rendre cette extravagance du langage ou cette extravagance poétique. Il utilise d'autres procédés, un style obscur, alambiqué, ampoulé, et la multiplication des répétitions, surtout sur des rythmes ternaires. Et de l'autre côté, il y a cette mise en place d'une sorte de pathétique autodérision de Armado, un passage parmi beaucoup d'autres. C'est le moment où, pour faire sa cour à une jeune paysanne, Jaqueneta, il se représente lui-même, Don Armado, comme le lion de Némée, entend rugir le lion de Némée, ce qui est évidemment un trait particulier d'autodérision, puisque, comme on le sait, ce lion de Némée qui devait être invulnérable, tout comme la Invincible Armada, fut finalement étranglé par Hercule. Alors pourquoi cette figure, certes pas propre à Shakespeare, anglaise et peut-être plus largement européenne, de l'espagnol couard, matamor et bravache, je pense qu'il y a une racine très profonde de cela, c'est qu'elle propose cette figure un contrepoint rassurant à des descriptions toutes différentes, c'est-à-dire des descriptions qui étaient celles liées à la crainte ou à l'horreur devant les cruautés avérées ou supposées prêtées aux Espagnols, c'est-à-dire la circulation très ample, y compris en Angleterre, de ce que l'on a désigné comme la leyenda negra, la légende noire espagnole, fondamentalement alimentée par la description des brutalités, des cruautés, des violences infligées par les Espagnols, en premier lieu aux habitants du Nouveau Monde, mais au-delà, en Europe même, aux protestants. Et je crois qu'ici, on ne peut comprendre ces figures dérisoires, extravagantes et burlesques de l'espagnol bravache sans les relier avec ce qui a été la circulation très puissante d'une autre imagerie qui s'enracine dans un livre imprimé en 1552 à Séville, La brevissima relación de la destruición de las Indias, c'est-à-dire le livre de Las Casas sur la très brève relation de la destruction des Indes. Et ce texte a eu, avec un certain décalage temporel, qui se liait d'ailleurs avec la conjoncture politique européenne, a connu un impact considérable lorsqu'il a été traduit d'abord en français par un protestant flamand, Jacques de Migrode, publié à Anvers en 1579, puis en 1583, dans une traduction anglaise qui a pour titre « The Spanish Colony », et qui a été une traduction de la traduction française. Autre point entre parenthèses, lorsqu'on pense aux traductions dans le monde des XVIe et XVIIe siècles, on doit ne pas penser que nécessairement les textes sont traduits à partir de la langue originale, mais que très souvent il y a une médiation de traduction, une traduction qui sert de copie pour l'autre traduction. Et c'est exactement ce qui se passe avec la traduction de Migrod de 1579 pour la traduction anglaise de 1583. Et le traducteur anglais reprend jusqu'au terme même employé soit sur la page de titre, soit dans les avertissements au lecteur par Jacques de Migrod, puisqu'il présente son livre comme les, je cite, « Spanish cruelties and tyrannies perpetrated in the West Indies, commonly termed the New Found World », les cruautés et les tyrannies des Espagnols perpétrées dans les Indes occidentales, appelées communément le Nouveau Monde. Et il reprend aussi ce qui était l'intention de la traduction, c'est-à-dire pas seulement de rappeler les cruautés exercées par les Espagnols aux dépens des Indiens, mais que les cruautés possiblement exercées par les mêmes Espagnols aux dépens des protestants, tout particulièrement ceux des Provinces Unies. Et le texte de 1579, repris en 1583 en anglais, était présenté pour servir comme un précédent et un avertissement pour les provinces des Low Country, des Pays-Bas, c'est-à-dire les provinces des Flandres, marquées par la révolte protestante. On a un texte là qui est fondateur de la légende noire et qui va prendre une importance encore plus grande dans toute l'Europe, avec une troisième traduction qui n'est plus la traduction au français de 1579, la traduction à l'anglais de 1583, mais qui est la traduction au latin en 1598, parce que cette traduction latine de 1598 est ornée de 17 gravures dues à Théodore de Brie et qui sont celles qui vont donner la puissante imagerie des terribles meurtres, cruautés, tyrannies exercées par les Espagnols aux dépens des Indiens, Indiens dont la figure peut être projetée sur ceux des victimes à venir des mêmes Espagnols, c'est-à-dire les protestants européens. Et il serait aisé de voir dans le répertoire des textes publiés en Angleterre dans ces années 1580 et 90 de nombreux pamphlets ou libelles qui reprennent la même thématique, particulièrement par exemple en 1591 sur un pamphlet on rencontre au titre la dénonciation des actions condamnables, des meurtres misérables et des massacres monstrueux des Espagnols maudits, the cursed Spanish. Donc on a là une je vais arrêter pour cette première heure avec cela, cette double présence espagnole sur les scènes anglaises, l'une qui va lier une forme de cruauté qui est celle de la vengeance avec la localisation espagnole, le texte emblématique étant ce Spanish Tragedy de Kyd, et l'autre qui apparemment se prend distance par rapport à cette violence espagnole, puisqu'elle est la représentation d'une extravagance poétique et d'une couardise guerrière ou militaire, mais qui en même temps ne peut se comprendre que sur cette trame de fond qui est la très large circulation des motifs de la Leyenda Negra, assurés dans toutes les langues par des traductions qui ont comme point de départ, comme texte original, ce texte si fondamental de Bartolomé de las Casas, qui fut publié à Séville en 1552. Alors, donc, je fais cette pause pour la durée des enregistrements, mais on peut peut-être reprendre pour continuer. Dans cette première série d'analyses, ce que je voulais mettre en place, c'était comment la traduction de 1612 du Quichotte, publiée par Edward Blount, a pu définir un texte dont il était possible pour des dramaturges de s'emparer afin de transformer des personnages ou des intrigues du Quichotte en une pièce de théâtre. Et pour comprendre ce contexte, il faut rappeler comment, avant ce Carbenio représenté à la cour en 1613, avait été manié, utilisé, mis sur les scènes des théâtres londoniens des figures espagnoles. Les unes liées avec l'imagerie du Matamor, les autres liées avec le thème de la vengeance, c'est-à-dire en fait ce thème si important dans tout le théâtre espagnol, qui est celui de l'honneur. Je crois qu'il faut aussi penser au fait que les personnages des certains des textes qui ont circulé en Angleterre et en traduction anglaise ont pu être investis de significations différentes, mais néanmoins utilisés pour être portés sur le théâtre.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.